Le journal avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Prudence à Bruxelles, il y a peu de chances que l'on connaisse ce soir le nom du successeur de Jean-Claude Juncker. Nous joindrons Angélique Bouin dans un instant. Londres suspend ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, décision prise sous la pression de la justice. Marina Daras nous expliquera pourquoi. La mise en service de l'EPR de Flamanville devrait être encore repoussée. L'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF de procéder à des réparations avant le démarrage du réacteur. Et puis en plein salon du Bourget, le dossier de ce journal sera consacré à la fusée Ariane 6 dont le lancement est prévu dans un an. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour fixer les grandes orientations des 5 années à venir et pour se répartir les postes clés en tenant compte du nouvel équilibre des forces issues des élections du mois dernier. Alors qui va prendre la tête de l'exécutif européen? On ne le sait pas encore. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont bien parlé cet après-midi. Mais pour l'instant, Angélique Bouin, les divergences persistent.
Oui, en témoigne ce tweet du président du Conseil, Donald Tusk, mandaté pour faire avancer ou essayer en tout cas de faire avancer ce délicat mercato. Hier, je me disais prudemment optimiste, a-t-il dit. Aujourd'hui, je suis plus prudent qu'optimiste. En clair, le compromis n'est pas encore trouvé sur le nom du futur ou de la future dirigeante de la Commission européenne. Premier étage de la fusée pour distribuer les autres postes. Depuis 15h30, les 28 chefs d'État et de gouvernement discutent donc de l'agenda stratégique des 5 prochaines années qui était au menu de cette rencontre. Protection des frontières et des citoyens, futur modèle économique et social de l'Union européenne et sa place dans le monde. La question climatique et l'objectif d'une neutralité carbone à l'horizon 2050 est également en discussion. Un dossier sur lequel d'ailleurs on peut s'attendre de ce côté-là à de réelles avancées ce soir. Et c'est aussi sur la base de ces échanges que se feront les futures nominations, a tenu à rappeler à son arrivée le président français.
Elles doivent découler de cette discussion stratégique. Et donc les différents responsables que nous devons ou proposer ou nommer, selon les compétences qui sont les nôtres en vertu des traités, eh bien, elles doivent se faire à la lumière de cette discussion stratégique et des équilibres politiques. C'est la discussion que nous aurons ce soir.
Et la question du partage des postes est en effet au menu du dîner d'État qui débute à 19h15. Téléphone portable éteint pour se parler en direct sans les sherpas. Ce matin, les groupes socialistes et centristes du Parlement ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas l'Allemand Manfred Weber, candidat du PPE, la droite européenne et d'Angela Merkel pour présider la Commission. Mais rien n'a fuité de cette rencontre que vous évoquiez, 30 minutes en tête à tête d'Emmanuel Macron et Angela Merkel, juste avant le sommet. A-t-elle elle aussi lâché Weber? A-t-elle une alternative dont on débattra tout à l'heure entre dirigeants? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas d'échec sur ces nominations, un sommet extraordinaire, un nouveau sommet, est envisagé le 1er juillet, veille de la session inaugurale du nouveau Parlement qui élira son futur président.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Le gouvernement britannique suspend l'attribution à Riyad de nouveaux contrats de vente d'armes pouvant être utilisés au Yémen. Il ne le fait pas de sa propre initiative, mais se soumet provisoirement à la décision de la Cour d'appel de Londres, l'invitant à reconsidérer ses pratiques en la matière. Les précisions de Marina Daras à Londres.
C'est une procédure qui avait commencé en 2015. L'ONG Campagne contre le commerce des armes avait décidé de saisir la justice britannique pour obtenir la suspension des ventes de bombes et d'avions de chasse vers l'Arabie Saoudite. L'organisation reproche au gouvernement de fournir des armes qui peuvent être utilisées au Yémen, puisque l'Arabie Saoudite y est militairement engagée auprès d'une coalition régionale en soutien aux forces pro-gouvernementales et opposée aux rebelles Houthis. Selon l'ONG, le gouvernement britannique s'est donc rendu coupable de violations graves et répété du droit humanitaire international en fournissant des armes à cette coalition. D'après le juge, l'exécutif britannique n'a pas évalué si la coalition dirigée par les Saoudiens avait commis des violations du droit international humanitaire par le passé pendant le conflit au Yémen et n'a fait aucune tentative pour le faire. Il a ajouté que ce jugement ne signifiait pas que les licences d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite doivent être immédiatement suspendues, mais un examen plus approfondi doit être fait pour étudier l'utilisation de ces armes. Le gouvernement britannique, quant à lui, veut faire appel de cette décision, mais a toutefois décidé qu'il n'accorderait pas de nouvelles licences de vente d'armes à l'Arabie Saoudite et à ses partenaires de la coalition.
L'Allemagne redoute une montée d'un terrorisme d'extrême droite. Avant-hier, le ministre de l'Intérieur déclarait qu'il voyait un signal d'alarme pour le pays dans le meurtre d'un élu favorable aux migrants par un sympathisant néo-nazi. Or, depuis, de nouveaux élus, connus pour leur soutien à un accueil généreux des réfugiés, ont été menacés. Correspondance de Nathalie Versieux à Berlin.
Quelques semaines après le meurtre de Walter Lübcke, le préfet de Kassel, assassiné à bout portant sur sa terrasse vraisemblablement par un terroriste d'extrême droite, ce sont deux élus municipaux qui ont à leur tour reçu des menaces anonymes. Henriette Lrecker, maire de Cologne, blessée au couteau par un sympathisant de l'extrême droite en 2015, a reçu une lettre de menace, tout comme Andreas Holstein, le maire de la petite ville de Rhénanie-Altena. Andreas Holstein, dont la ville de 17 000 habitants est présentée comme ville modèle pour l'accueil des réfugiés, avait lui aussi déjà été attaqué au couteau fin 2017. Selon plusieurs observateurs, l'échec relatif du parti d'extrême droite AFD en recul lors des élections européennes par rapport aux législatives de 2017 expliquerait les tensions actuelles. Les partisans de l'action violente, constatant que la voie légale ne permettrait pas de mettre fin à la démocratie haïe et accusée d'accepter, je cite, « une invasion musulmane », cette fange violente de l'extrême droite aurait décidé de passer à l'acte en optant pour la lutte armée.
Le gendarme du nucléaire a tranché, EDF va devoir réparer 8 soudures de l'EPR de Flamanville, une intervention complexe sur des tuyaux traversant l'enceinte de confinement du réacteur. Et contrairement à ce que souhaitait EDF, ces réparations doivent être réalisées avant la mise en service de l'EPR. EDF pensait pouvoir exécuter ces réparations après l'entrée en fonctionnement. Irréaliste et trop dangereux, répond le président de l'autorité de sûreté nucléaire, Bernard Doroczuk.
Nous disons clairement à EDF que ces soudures doivent être réparées. Elles doivent être réparées parce que la qualité de ces soudures n'est pas suffisante pour exclure le risque de rupture. Et donc il faut les réparer. Et nous disons à EDF que le seul scénario réaliste de réparation, c'est celui d'une réparation avant mise en service. Un réacteur, en général, lorsqu'il est mis en service, est un réacteur qui fait face à des sollicitations qui n'étaient pas prévues. Puisqu'on est au démarrage, il faut réaliser des essais de qualification, le fonctionnement du réacteur n'est pas totalement stabilisé, et donc le retour d'expérience que nous avons sur la mise en service des réacteurs, en France et dans le monde, montre que la période la plus sensible, c'est finalement les premières années. Puisqu'il peut y avoir des coups de bélier, vous savez, lorsqu'on ne gère pas, par exemple, correctement, parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'expérience, les conditions d'exploitation. Et donc nous disons, puisque c'est la période qui est la plus sensible pour laquelle il faut acquérir un retour d'expérience de la conduite du réacteur, ce serait imprudent d'accepter que pendant cette première période, on mette en service le réacteur sans avoir réparé les soudures.
Propos recueillis par Véronique Reberotte. Par ailleurs, les syndicats réagissent avec virulence à la présentation du plan de restructuration d'EDF. Ce matin, le PDG Jean-Bernard Lévy a confirmé les annonces faites dans la presse. Le plan prévoit de diviser l'électricien en deux entités. Un EDF bleu pour le nucléaire, les barrages et le réseau de transport d'électricité. Cette partie serait détenue à 100% par la maison mère, et un EDF vert pour la branche commerciale qui fournit l'électricité aux particuliers et aux entreprises, ainsi que pour les énergies renouvelables. Le capital de cette entité-là serait ouvert au privé entre 30 et 35% environ, une part plus importante qu'actuellement. Pour le délégué central du syndicat Force ouvrière énergie et mines, Serge Gianorsi, joint par Suzanne Chaudjay, c'est une destruction d'EDF.
Ce scénario est un démantèlement total d'EDF avec un risque fort pour toutes les activités commerciales, mais également pour le distributeur, c'est-à-dire Enedis. Parce que l'électricité n'est pas une marchandise comme une autre, c'est un bien de première nécessité. L'ouverture de la concurrence est un échec des plus totales. L'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité avait été vantée comme un atout majeur pour les clients avec une diminution du prix. On constate que c'est l'inverse qui est en train de se dérouler. Ce projet vient finaliser le projet de destruction d'EDF. Il y a un risque fort avec ce projet que l'étape suivante soit la fin des tarifs réglementés de vente de l'électricité et qui aurait comme conséquence une différenciation de tarification et qui ne permettrait pas aux citoyens français, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire, de bénéficier d'un même prix du kilowattheure.
EDF précise que rien n'est encore figé dans ce plan. Le 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace bat son plein au Bourget. Depuis lundi, les constructeurs annoncent les futurs contrats et commandes. Le salon s'ouvrira au grand public demain. Avec vous, Hakim Kasmi, nous nous intéressons ce soir au marché du spatial. La concurrence des lanceurs américains est forte. On peut citer SpaceX du milliardaire Jeff Bezos, qui a la particularité d'être réutilisable et donc moins cher. La France et l'Europe préparent la riposte avec Ariane 6, qui remplacera à terme Ariane 5. Le premier lancement est prévu dans un an, en juillet 2020, à Kourou, en Guyane. Alors, pour comprendre comment Ariane Group prépare une fusée plus compétitive, Hakim, vous vous êtes rendu sur les nouveaux sites de production.
Nous sommes dans l'usine historique d'Ariane à Vernon dans l'Eure. C'est là que sont fabriqués les moteurs d'Ariane 6, à commencer par le Vulcain 2.1 qui est le plus gros. C'est lui qui fera décoller la fusée, notamment grâce à de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Pour gagner en compétitivité, son temps de montage a été divisé par deux, mais la réelle innovation d'Ariane 6, c'est d'abord son nouveau moteur Vinci réallumable. Situé sur l'étage supérieur de la fusée, il permettra de déposer les satellites sur différentes orbites, ce qui est une réelle demande du marché. Philippe Girard, le responsable de la propulsion liquide chez Ariane Group.
Aujourd'hui, on n'atteint qu'une seule montagne, ce qui est l'orbite géostationnaire. On veut pouvoir desservir plusieurs sommets successivement en déposant à chaque sommet la charge utile qui est nécessaire à chaque sommet, à chaque chalet de montagne. Et ça, il faut pouvoir d'une part y aller, mais aussi dans la descente, quand on va redescendre dans la vallée pour remonter vers une autre, il faut pouvoir couper le moteur parce que ce serait un total gâchis de le laisser fonctionner pendant la descente. Et donc, on l'éteint. On laisse la gravité faire son travail. Et puis quand on a besoin de remonter sur l'autre sommet, eh bien on rallume notre moteur pour aller sur l'autre sommet.
Pour réduire ses coûts de 40% par rapport à sa petite sœur Ariane 5, les ingénieurs vont également recourir à l'impression 3D qui permet de faire des pièces plus complexes, mais surtout moins lourdes. Philippe Girard.
Le principe de l'impression 3D, c'est que vous mettez une petite couche de poudre métallique et avec des lasers, vous venez fusionner cette couche qui fait 20 à 40 microns pour réaliser la géométrie sur cette épaisseur-là. Et puis, vous enlevez l'excédent de poudre là où vous n'en avez pas besoin et vous remettez une couche de poudre pour construire progressivement une géométrie.
Nous quittons Vernon, direction le site des Mureaux en région parisienne. C'est là que sont fabriqués les deux étages principaux d'Ariane 5 et d'Ariane 6. Pour gagner en productivité, l'assemblage de la nouvelle Ariane 6 se fera désormais à l'horizontale comme dans l'automobile, comme nous l'explique Stéphane Israël, le directeur général d'Ariane Espace.
Une usine qui est conçue à l'horizontale, c'est beaucoup plus facile pour les opérateurs d'y travailler que dans nos cathédrales qui étaient à la verticale. Nous sommes très près du hall d'assemblage du premier étage d'Ariane 5 qui lui est à la verticale. Et en Guyane, on va continuer dans ce monde à l'horizontale puisque nous avons aussi des bâtiments d'assemblage qui sont à l'horizontale et on ne finira qu'au moment à la verticale quand on fait la jonction entre le lanceur et la partie haute, le satellite.
Enfin, pour garantir la pérennité du programme, André Hubert-Roussel, le PDG d'Ariane Group, prévient déjà l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qu'il sera important de garantir au moins 5 lancements par an sur Ariane 6 pour résister face à la concurrence américaine et chinoise.
Hakim Kasmi, et une fusée Ariane 5 doit décoller ce soir de Kourou pour mettre en orbite 2 satellites de télécommunication. C'était pour eux le rendez-vous de la dernière chance. Le dossier des anciens mineurs lorrains était examiné ce matin par la Cour de cassation à Paris. Depuis 6 ans, 732 mineurs du bassin houillé se battent pour faire reconnaître leurs préjudices d'anxiété. Ils ont été exposés durant toutes ces années passées dans les mines à des produits cancérogènes, dont l'amiante. Après une première victoire devant le conseil de prud'homme de Forbach en 2016, la Cour d'appel de Metz les avait déboutés un an plus tard. La Cour de cassation doit donc dire si la justice messine a correctement jugé l'affaire. Vous avez assisté à cette audience, Claire Flochel.
Est-ce qu'il était juridiquement justifié que les mineurs soient déboutés en 2017 ? Voilà ce à quoi la Cour de cassation doit répondre. Selon l'avocate générale, oui, le rejet était justifié. Nul ne met néanmoins en doute la pénibilité du travail de mineurs, précise-t-elle. C'est pour cette raison que malgré tout, maître Cédric de Romanet est confiant. Il est l'un des avocats représentant les mineurs lorrains.
Je ne peux pas croire que la Cour de cassation ne voit pas que ces conditions de travail difficiles avaient pour origine une décision qui a été prise par l'employeur à l'époque. On pouvait exposer les mineurs à un cocktail de risques extraordinairement important, de manière parfaitement consciente, parce que, eh bien, il fallait gagner la nouvelle guerre du charbon. C'est-à-dire il fallait continuer dans une logique de surproductivité. Et lorsqu'on est dans une logique de surproductivité, malheureusement, ça engendre également un surrisque.
Un surrisque qui a en effet engendré un nombre important de maladies professionnelles. 230 ont été reconnus pour les 732 anciens mineurs qui demandent justice. À l'extérieur, à quelques mètres du palais de justice, quelques dizaines d'entre eux sont d'ailleurs là. Ils ont fait le déplacement en car depuis la Moselle. Jean-Marc, 64 ans, a travaillé 28 ans au fond d'une mine, à 1250 mètres sous terre, à extraire le charbon. Et sa vie n'est pas comme celle des autres retraités.
On a mal, là, on a peur du lendemain. Ce qui est le pire dans notre corporation, on voit les copains qu'on enterre tous les deux jours. Vous voyez les gens qui se promènent avec le tube dans le nez. Parce qu'ils n'arrivent plus à respirer normalement. Voilà. Les bidons qu'on avait au fond de la mine, il y avait des têtes de mort dessinées dessus, danger. Mais bon, on ne savait pas plus, le patron ne disait rien.
Leur ancien employeur Charbonnage de France ne leur fournissait aucune protection, pas de masque. Il n'y avait pas de lavabo pour se laver les mains. Et c'est ce qui rend aujourd'hui très en colère Calogero, lui a de gros problèmes respiratoires.
J'ai 57 ans, j'ai deux filles et j'ai deux petits-enfants. Je ne sais pas si je vais les voir grandir. Et ici, tout le monde s'en fout. Ils ont encaissé les Charbonnages de France, des millions. Et nous, il nous laisse crever.
La décision de la Cour de cassation sera rendue le 11 septembre. Deux possibilités. Si elle rejette le pourvoi, la procédure sera terminée. Ou bien, et c'est ce qu'espèrent bien entendu les mineurs, elle renverra devant une autre cour d'appel pour rejuger le fond du dossier.
Claire Flochel, la réforme de l'assurance chômage inquiète les intermittents du spectacle. En plein Conseil national des professions du spectacle, le ministère de la Culture, quelques 250 intermittents se sont rassemblés sur la place du Palais Royal. Leur crainte que la réforme du régime général annonce du changement pour leur propre régime d'assurance chômage, Noémie Philippot.
Le ministre de la Culture dit qu'il ne se passera rien. Pour l'instant, dans ces trois mots, tout est dit pour Françoise, comédienne. Ce n'est qu'une question de temps.
C'est retardé pour mieux sauter, parce que les conséquences, on va les avoir dès la rentrée, puisqu'ils veulent avoir la paix pendant les festivals, puisqu'on sait que ça amène une manne d'argent. Enfin, je pense à Avignon, très clairement, ou à Aix, festival d'art lyrique. Donc je pense que c'est à la rentrée, donc il faut s'y préparer maintenant.
En 2016, les intermittents du spectacle ont obtenu un assouplissement des règles d'accès au chômage. Franck Riester veut dresser le bilan de cet accord pour voir ce qui peut évoluer. Franck Gilbert est secrétaire général du syndicat des artistes Force Ouvrière.
Dans le contexte de remise en cause des droits des demandeurs d'emploi qui sont très graves, on peut s'inquiéter de la pression qui s'exercera pour remettre en cause toutes les dispositions que nous avions obtenues par la négociation en 2016 qui avaient permis à plus de 5000 professionnels du spectacle de retrouver leur droit à l'assurance chômage.
Au-delà de la remise en question de leur régime spécial, Romain, journaliste dans la production audiovisuelle, craint de voir le système de bonus-malus s'étendre au secteur.
On pourvoit des contrats courts de partout dans l'audiovisuel. Je ne vois pas quel levier pourrait permettre de ne pas impacter l'intermittence. Il faudrait que les employeurs sortent du bois pour dire on ne veut pas le faire. Et en l'occurrence, les employeurs, on n'a jamais eu un retour de leur part sur une quelconque initiative pour essayer de nous soutenir ou d'essayer en tout cas de trouver un terrain d'entente.
Les syndicats veulent faire monter la pression. Ils invitent à rejoindre la mobilisation de tous les métiers contre la réforme de l'assurance chômage.
Au surlendemain d'une grève très suivie à Radio France, le gouvernement et la direction maintiennent le cap sur les réformes qu'ils veulent imposer à l'entreprise. Le plan de départ, qui prévoit 270 à 390 suppressions de postes, est maintenu. Le plan d'économie également. Le projet de supprimer 7 à 12 jours de congés aussi. Pour la tutelle et la direction, Radio France doit contribuer à l'effort de redressement des comptes publics, Maxime Tellier, tout en investissant dans le numérique.
Oui, la grève massive des salariés mardi n'a pas fait bouger le discours du gouvernement ni de la direction. Ce matin, Franck Riester, le ministre de la Culture et ministre de tutelle de Radio France, l'a rappelé, il était sur France Inter.
Aujourd'hui, on estime que les moyens de l'audiovisuel public sont très importants et qu'ils pourraient être beaucoup plus encore efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui en termes de puissance, en termes de présence pour nos compatriotes, si on était encore mieux organisé.
Franck Riester en a profité pour renouveler sa confiance à la présidente de Radio France, qui ne ménage pas ses efforts pour défendre son plan malgré l'impopularité des mesures. Sybille Veil va à la rencontre du personnel, comme ce midi, exemple avec cet échange animé avec un salarié.
Je pense que les salariés de cette maison ne sont pas contre le changement, ne sont pas contre la modernité. Personne ne va vous dire « Ah ben non, dans 10 ans, on fera moins de numérique qu'aujourd'hui ». Mais à un moment donné, comment va-t-on faire mieux avec moins de moyens dans un contexte de paupérisation de l'audiovisuel public avec une dotation de l'État en baisse ?
Et voici ce que répond Sybille Veil.
Il y a beaucoup d'entreprises en France
qui font des plans de départ beaucoup plus importants que celui qu'on fait là. Et pourtant, il faut que dans le même temps, ils s'adaptent à l'évolution du métier. Il faut produire des articles pour le numérique, il faut faire d'autres choses en plus. Ça concerne tous les médias, on n'est pas le seul.
Et les syndicats, évidemment, contestent ce diagnostic. Pour l'instant, ils sont unis en intersyndicale. Lionel Thompson de la CGT, c'est le premier syndicat à Radio France.
En fait, la réaction de Sybille Veil, c'est de dire « la grève a été forte, on vous a entendu, on accélère ». Donc ça ne règle absolument rien et elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle dit, entendu le message, le coup de semonce qui était pourtant très fort.
Des syndicats qui refusent même de négocier le plan de la direction et qu'ils rencontrent à la fin du mois. Si rien ne change, on se dirige donc tout droit vers un nouveau conflit social à la rentrée de septembre.
Maxime Tellier, demain vendredi, le temps sera instable dans le sud-ouest, sur le Massif central et les Alpes, avec des ondées à caractère orageux. Ailleurs, alternance entre nuages et éclaircies, soleil sur le littoral varois et niçois et sur la Corse. Le matin, les températures seront fraîches sur un grand quart nord-ouest, entre 8 et 12 degrés. Il fera 13 à 20 sur le reste du pays. L'après-midi, 17 à 25 degrés, jusqu'à 30 dans le Var. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.